Avec Monseigneur Jacques Perrier.
Hier, c'était la clôture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Mais enfin, on peut toujours continuer à prier pour. Et puis, de toute façon, on finit la semaine. Et alors, je voudrais vous parler dans cette dernière émission d'un groupe de travail, déjà un peu ancien, mais dont les résultats ont été publiés, ce qu'on appelle le groupe des Dombes. Le groupe des Dombes, c'est une institution assez ancienne qui date d'avant même la Deuxième Guerre mondiale et qui fait se rencontrer des théologiens, des pasteurs, enfin pasteurs au sens de responsables de communauté, à la fois catholiques, réformés, enfin protestants, et orthodoxes et anglicans, etc. Un groupe œcuménique. Alors, il n'a pas d'autorité hiérarchique. Bon, c'est un groupe de travail, de réflexion, mais enfin qui a une grande notabilité. Et ils ont travaillé sur beaucoup de sujets, et ils prennent toujours les sujets difficiles, y compris le baptême, l'Eucharistie, le ministère, etc., les tâches pastorales, etc. Bon. Et ils ont fait une réflexion en plusieurs années, précisément, sur la Vierge Marie. Et ils ont publié leurs travaux. En 1996-1997, et donc c'est Marie dans l'Écriture et dans la tradition chrétienne. Et il s'attaque, si j'ose dire, au point dur, au point difficile. Bon. Entre autres, le problème du rôle de Marie dans l'histoire du salut. Vous savez qu'il y a des gens qui voudraient à tout prix qu'on dise de Marie qu'elle est corédemptrice. Les papes ont toujours refusé cette expression, ils l'ont employée une fois ou l'autre, incidemment si vous voulez, mais toujours refusé, et le Concile Vatican II n'a pas voulu le prendre. Parce que, oui, elle participe à l'œuvre du salut, puisque c'est bien par elle que la volonté de Dieu s'accomplit. Dieu n'a pas voulu faire l'économie du oui de Marie, le oui de l'Annonciation, on pourrait même dire de son oui continue, puisqu'elle est encore au pied de la croix et qu'elle sera présente au moment de la Pentecôte. Mais évidemment, si vous dites « corédemptrice », c'est un peu comme si vous êtes copropriétaire, alors bon, on a tous les mêmes droits. Bon, donc le terme, il est juste, mais il a tellement de chances d'être mal compris qu'il vaut mieux effectivement l'éviter. Ensuite, il y a la question de la virginité perpétuelle. Bon, les catholiques disent ben, « Marie est restée toujours, Marie toujours vierge », nous disons, etc. Les orthodoxes aussi disent ça. Bon. Du côté protestant, ben, dit, oui, Marie est née de la Vierge Marie, d'accord, c'est dans le credo. Hein, mais bon, après, bon, moi, je reste persuadé que Marie n'a jamais eu d'autres enfants, puisque, vous savez, dans l'évangile, on dit « oui, mais il y a des frères », etc. Mais, je cite toujours ce fait-là. Allez regarder votre évangile. Il y a 4 noms de frères et toutes ses sœurs, on dit. Alors, vous rendez compte, s'il y a Jésus plus 4, plus les sœurs, vous avez 6, 7, 8, etc., arrivé à l'âge adulte, alors Marie aurait eu 20 enfants pour une soirée invraisemblable, impossible. Bon, donc, on peut toujours chicaner théologiquement, mais on se heurte, à mon avis, au bon sens. Voilà. Bien. Il y a l'Immaculée Conception. Ben, j'en ai parlé dans l'émission précédente. Ben, tout le monde est d'accord qu'elle est toute sainte. Bon, le dogme de l'Immaculée Conception, les orthodoxes ne l'aiment pas parce que ça a été défini par Rome. Il n'y a pas eu un concile œcuménique qui se soit réuni, même si le pape a consulté. Bon, donc, Immaculée Conception, les autres partis concèdent, si j'ose dire, aux catholiques de dire cela. Bon, ça ne les empêche pas de croire que Marie est effectivement bien sainte, mais sans faire cette réflexion sur le péché originel et le fait que Marie en ait été indemne, non seulement du péché, mais de toutes ses conséquences. Pour l'Assomption, ben oui, les protestants avec l'écriture, ça, ben il n'y a rien qui l'atteste, etc. Les orthodoxes, ils sont tout à fait pour l'Assomption, effectivement. Ils pensent plutôt que la Vierge est morte et ressuscitée ensuite, comme Jésus. C'était d'ailleurs ce que pensait le pape Jean-Paul II. Mais ça, c'est pas dans le dogme de l'Assomption. On croit qu'elle est associée à la gloire de son Fils. Il y a quand même un signe négatif, c'est qu'il n'y a jamais eu de reliques, on n'a jamais prétendu avoir de reliques physiques de la Vierge Marie. Le voile, le vêtement, le ci ou là, mais jamais. Bon. Il y a aussi le problème de l'invocation. Est-ce que c'est légitime de prier Marie? Oh, les protestants, ils n'aiment pas prier les saints. Bon. Ben oui, mais rappelons-nous, nous aussi, catholiques, qu'on demande à Marie surtout de présenter notre prière. Hein. Regardez comment il a fait le « Je vous salue Marie ». D'abord, c'est la salutation de l'ange, ensuite la parole d'Élisabeth, et puis finalement, prier pour nous, pauvres pécheurs. On lui demande de prier pour nous. Voilà. Donc on est associé d'une certaine façon à la prière. Bon. Et regardez les scènes, enfin regardez, on n'y était pas, bon, de Bernadette. Bon, elle prie avec la Vierge. Hein, bon, et la Vierge égrène son chapelet. Elle, évidemment, elle ne va pas dire « Je vous salue Marie », bon, etc. Et finalement, elle ne remue les lèvres que pour dire « Le gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit ». Et quand elle dit « Je suis l'Immaculée Conception », elle lève les yeux au ciel. À Cana, que fait-elle? Elle présente un besoin, un déficit, un manque à son fils. Et sa dernière parole, c'est « Faites tout ce qu'il vous dira ». Donc, effectivement, on peut se confier à Marie, elle nous conduira au Christ. Fin de cette semaine de prière pour l'unité. À d'autres fois, au revoir.